France Inter.
Le journal Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Relever le niveau en français et en maths, c'est le flou artistique autour des groupes censés être mis en place au collège à la rentrée. Alors gros plan chez nos voisins suisses, là-bas ça marche. Des femmes en majorité dans le fauteuil des députés ce matin à l'Assemblée pour marquer ce 8 mars, des familles monoparentales, il y aura aussi quelques hommes. 2 mois pour remonter 10 points, c'est l'objectif de la majorité pour les élections européennes. Gabriel Attal a élaboré sa tactique pour pilonner le Rassemblement national. Dans ce journal aussi, carton vide, les déménageurs subissent aussi la crise de l'immobilier et un gros carton à suivre durant les Jeux Olympiques. Les paris sportifs pourraient atteindre 500 millions d'euros, mais gare à la corruption.
À 7h50, la France au régime sec, avec un déficit annoncé à près de 5% cette année, le gouvernement annonce 30 milliards d'euros de coupes dans le budget. Est-ce la bonne décision? Et si oui, où couper? Question dans le débat éco avec Dominique Seux et Thomas Porcher.
France Inter.
Une cérémonie de scellement très symbolique pour marquer ce 8 mars, Christelle.
Un sceau vert sera porté pour graver dans la Constitution la liberté garantie des femmes d'avorter. Une cérémonie en public présidée par Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les bancs ne seront pas occupés par des députés, mais par des parents qui élèvent leurs enfants en solo. Il s'agit de femmes à près de 90%. L'objectif, Alice Cachaner, c'est de rendre plus visibles ces familles monoparentales, souvent précarisées.
Octodur est le plus grand collège du canton du Valais.
Cette assemblée des familles monoparentales est ouverte sur simple inscription. Sur les bancs, peu de papas, surtout des mamans, comme Estelle qui élève seule sa fille dans un petit village de Normandie. Elles viendront faire entendre leur voix.
Ma fille est au courant de la situation. À 9 ans et demi, quand on doit faire des achats ou des choses comme ça, qu'elle me dit « mais c'est trop cher, faut qu'on fasse attention », c'est pas des questions qu'elle devrait se poser à son âge.
Selon l'INSEE, une famille monoparentale sur 5 est en situation de pauvreté. Estelle ne comprend pas pourquoi elle doit payer des impôts sur sa pension alimentaire.
La somme que je touche chaque mois, je m'en sers réellement pour ma fille et moi je dois l'inclure dans mes revenus et je trouve pas ça logique.
Une proposition de loi transpartisane est en cours d'écriture. Elle vise à créer un statut particulier pour ces parents isolés. Cette assemblée des familles monoparentales, c'est donc l'occasion pour les parlementaires de confronter leur texte à la réalité du terrain, explique Philippe Brun, député socialiste à l'initiative de l'événement.
C'est assez simple, qui remplit les files des banques alimentaires du Secours populaire et du Resto du Cœur, les familles monoparentales. C'est un sujet social absolument écrasant et qui est malheureusement trop invisibilisé dans le débat public aujourd'hui.
Un constat partagé par l'exécutif. Cette semaine, le Premier ministre Gabriel Attal a lancé une mission en vue d'un plan d'action pour les parents solos.
Pouvoir s'abriter en cas de menace, les femmes qui seront victimes de harcèlement de rue pourront à l'avenir se réfugier dans des bars tabac presse de la Française des Jeux. Ce sera sur la base du volontariat de quelques 29 000 commerçants. Ils recevront une formation délivrée par l'application spécialisée Oumaï. L'appli fonctionne comme un GPS et signale les lieux sûrs les plus proches. Des groupes de niveau en français et en maths au collège dès la rentrée prochaine, c'était l'une des grandes idées de Gabriel Attal. Sa successeur au ministère de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, modère cette ambition. Les collèges s'organiseront comme ils le pourront. Un assouplissement, explique-t-elle, pas un abandon. En tout cas, le modèle existe déjà en Suisse, dans le canton du Valais. Jérémy Lange, vous vous êtes rendu dans un établissement de Martigny, bien loin des réticences françaises.
Octodur est le plus grand collège du canton du Valais. Ici, on dit cycle d'orientation. C'est aussi l'un des premiers à avoir mis en place les groupes de niveau il y a plus de 30 ans.
Ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on suit un cours en fonction de son niveau de compétence.
Nicolas Teux est le directeur de l'établissement.
Ça permet de les valoriser parce que dans l'ancien système, on était finalement en niveau 2 dans toutes les branches alors qu'on avait des capacités en sciences.
Concrètement, ça veut dire que les élèves sont répartis dans 2 classes avec 2 profs différents en français et en maths dès 12 ans, puis plus tard en allemand et en SVT.
Comment tu t'appelles ?
Moi je m'appelle Ethan.
T'es en niveau 1 en français ? Toi c'est quelque chose qui te convient ? T'aimes bien ça ?
En fait c'est pas mal parce que ça fait que quand on a de la facilité, il y a des trucs un peu plus compliqués ou par exemple c'est un peu plus dur pour nous, on a des trucs plus faciles, donc c'est mieux pour l'apprentissage.
Le professeur de français, monsieur Delalleuil, acquiesce.
Les niveaux, c'est du sur-mesure pour l'élève, par rapport à du prêt-à-porter où on entre dans des cases et on s'adapte vraiment à l'évolution de l'adolescence, quoi.
Quant à la stigmatisation, elle n'existe pas, jurent les élèves et le corps enseignant, déjà parce qu'on peut passer d'un niveau à l'autre selon les besoins, mais c'est aussi lié au système scolaire suisse qui valorise énormément les formations professionnelles et ne cherche donc pas à caser tous les élèves en niveau 1. À Martigny, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
Ah, c'est un président candidat qui a prononcé son traditionnel discours sur l'état de l'Union hier soir. Joe Biden, très offensif, vantant l'optimisme contre le déclinisme de Trump. Il a accusé son rival de se soumettre à Vladimir Poutine. Quant à la situation à Gaza, il a mis en garde son allié Israël. L'aide humanitaire ne peut être une considération secondaire et il annonce la construction sur la côte méditerranéenne de la bande de Gaza d'un port temporaire pour recevoir en masse cette aide. On y reviendra dans le journal de 8 heures. Aucune limite au soutien à Kiev. La ligne d'Emmanuel Macron n'a pas été suivie par l'opposition qui a jugé ses propos irresponsables. Quant aux 28 pays qui ont participé à Paris à une réunion pour soutenir l'Ukraine, ils n'ont pas soutenu l'hypothèse d'un envoi de troupes. Mais il y a les discours, Éric Bégala, et le principe de réalité.
Oui, de la Grèce au Portugal, en passant par l'Espagne, la République tchèque, la Pologne, la Suède ou l'Allemagne, tous ont dénoncé la perspective d'envoyer des troupes en Ukraine. Au Royaume-Uni, le porte-parole du Premier ministre a rejeté l'idée d'un déploiement à grande échelle en Ukraine. Il n'y a eu que les Pays-Baltes pour estimer que la proposition d'Emmanuel Macron méritait d'être considérée. Après, bien sûr, il y a toutes ces déclarations publiques et puis il y a les réalités. Chacun de ces pays qui se disent opposés à toute perspective d'envoi de troupes participait hier soir en visioconférence à une réunion destinée à rendre opérationnel 8 chantiers destiné à renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Parmi ces 8 chantiers, on trouve par exemple la sécurisation de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, laquelle sécurisation serait assurée par un ou plusieurs pays de cette coalition. Difficile d'imaginer qu'on n'y enverra que de simples gardes-barrières, et ce pour dissuader l'armée russe de réitérer l'offensive de février 2022. C'est en passant par la Biélorussie, en effet, que les Russes avaient foncé sur Kiev avant de se retrouver bloqués à quelques kilomètres de la capitale ukrainienne et de battre en retraite.
Éric Bégala.
Il pourrait se servir du conflit en Ukraine pour pilonner l'opposition et en particulier le RN.
Oui, ça devient un classique pour Gabriel Attal. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont priés de monter au front demain pour le premier grand meeting de Valérie Ayé qui porte les couleurs du parti présidentiel pour les élections européennes. Ce sera à Lille. Le Premier ministre doit réduire de toute urgence l'avance du RN dans les sondages, près de 10 points. Et pour combattre le parti mariniste, Gabriel Attal a une stratégie bien à lui qu'il peaufine Marie Mollet depuis plusieurs années.
Recette anti-RN, signé Gabriel Attal. D'abord, éplucher les votes du RN au Parlement européen et à l'Assemblée. C'est ce que font ses conseillers pour dénicher les incohérences et changements de pied. En pratique, cela donne ça.
En 2019, au Parlement européen, le Rassemblement national vote contre la PAC. En 2021, vote pour la PAC. Aujourd'hui, 2024, sont redevenus contre la PAC. Madame Le Pen n'était même pas dans l'hémicycle pour voter la loi Egalim.
C'est à se demander si vos députés savent ce qu'ils votent.
L'idée, nous dit l'un de ses proches, c'est de montrer que Marine Le Pen est dans le paysage depuis 20 ans, qu'elle a déjà un bilan, même si elle n'est pas à l'Élysée. Ensuite, viser les classes moyennes, sans se lasser.
Ces femmes, ces hommes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler.
À tous ces Français, souvent de la classe moyenne, qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits.
Car c'est exactement la cible du RN. Marine Le Pen en a absolument besoin pour élargir son socle. L'entourage de Gabriel Attal en est persuadé. C'est là que se joue la victoire ou la défaite du RN à l'avenir. Enfin, cogner sur le RN sans moraline, comme le dit l'un de ses amis. Pétain et le bruit des bottes, ça ne marche plus, dit-il. En revanche, taper fort sur les proximités du RN avec le Kremlin ou sur son Frexit déguisé. Alors, dans l'état-major du Rassemblement national, on l'admet, Gabriel Attal est celui qui nous a le mieux compris. Une jolie recette, donc, sur le papier, mais qui, pour l'instant, n'a aucun effet dans les sondages.
Le marché de l'immobilier bloqué, il n'y a pas que les entreprises du bâtiment qui s'inquiètent, même si le taux des crédits se détend aux alentours de 4% sur 25 ans. Il faudra du temps pour dégripper le marché et les déménageurs s'impatientent car pour eux aussi la perte est conséquente, Steven Goyer.
Sur une saison classique entre juin et septembre, Secotrans, la société de déménagement de Patricia Oana, doit refuser des clients, mais en 2023...
J'ai dû relancer mes clients, ce que je ne faisais jamais depuis au moins 10 ans.
À la vente comme à la location, plus personne ne bouge, explique la responsable, qui estime la baisse de son activité totale entre 15 et 20%, d'autant que les clients limitent de plus en plus les coûts.
Quelqu'un qui n'a pas le budget, il va me dire « je fais tous mes cartons », alors que... D'habitude, on lui fait tous ses cartons, ou bien il va faire le démontage.
Face à la baisse de la demande, Patricia Oana a fait le choix de conserver ses 10 salariés et de rogner sur ses marges.
Il y a 2 mois, j'ai effectivement dit « Bon, ok Patricia, il y a une vraie réalité, j'ai transmis aux commerciaux qu'on descend un petit peu les prix.
Des derniers mois très moroses avec entre 20 et 30% d'appels en moins pour le secteur. Et la suite ne s'annonce pas forcément meilleure, d'après Olivier Vermorel, le président de la Chambre syndicale du déménagement.
Ça commencerait à frétiller un petit peu au mois de juillet 2024. Mais bon, si les dossiers commencent à rebouger un peu, nous, les retombées, on ne va pas les avoir tout de suite. Si on loupe la saison, là, c'est chaud.
Seule solution attendue par les professionnels du déménagement, la baisse du taux de crédit immobilier pour redynamiser le marché.
Cette économie-là ne connaît pas la crise, celle des paris sportifs que les JO devraient doper comme jamais. À Tokyo, les paris avaient représenté 70 millions d'euros. On s'attend cet été à 7 fois plus, avec un risque inhérent, la triche et la corruption. Alors il faut sensibiliser les joueurs et les arbitres. Emma Sarango a assisté à un atelier dans le monde du badminton.
Devant une dizaine d'arbitres de badminton venus du monde entier, la séance commence par un petit rappel.
Vous n'avez pas le droit de parier sur votre propre sport et pendant les Jeux Olympiques, comme vous serez au village, vous ne pourrez parier sur aucun sport.
Mais l'objectif, c'est surtout d'alerter les arbitres qui pourraient être approchés. Eric sera juge arbitre aux Jeux Olympiques et il a déjà assisté à des tentatives.
Un joueur qui ne voulait pas vraiment jouer son match, qui a approché l'arbitre en disant « je vais pas jouer à fond parce que je suis blessé » alors qu'en fait il n'était pas fondamentalement blessé.
Des tentatives de corruption qui sont généralement liées à des paris suspects que Thomas Delafosse de l'Autorité Nationale des Jeux peut identifier dans sa base de données.
Si on a un match de badminton demain qui fait 300 000 euros de mise, 1 million de mise, d'habitude on a beaucoup moins, là on va se dire bon, c'est quand même très très bizarre.
Ces manipulations sont d'autant plus probables pendant les JO, reconnaît Blandine Sorbe, directrice de la conformité pour Paris 2024.
Les athlètes qui ne sont pas forcément professionnels, qui sont parfois financièrement dans des situations qui ne sont pas simples et donc qui peuvent être plus facilement tentés.
Salariés et volontaires de Paris 2024 ont également interdiction de parier pendant toute la période.
Ceux qui ont misé sur l'OM hier soir ont bien fait. Les Marseillais ont étrié Villarreal 4-0 en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, le Vélodrome a retrouvé de la voix. De son côté, Lille a battu le Sturm Graz 3-0. Enfin, il vient de se fiancer à 92 ans. Le mania australien des médias, Rupert Murdoch, y croit toujours. Même si c'est la sixième fois, il compte épouser Elena Yukova, 25 ans de moins que lui. Ses dernières fiançailles l'an dernier n'avaient duré qu'un mois. On va dire que c'est sa façon de célébrer les femmes.
Et puis l'amour n'a pas d'âge. Hein. C'était le journal de Christelle Rebière à suivre. Histoire de la parité en politique dans l'édito politique.